7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines sur RFI. Aujourd'hui, la parole est aux jeunes qui veulent entreprendre avec, comme chaque mois, les conseils du coach Didier Acoueté. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Quel plaisir de vous retrouver après une petite interruption estivale.
Et moi donc.
Vous êtes le directeur d'Afrique Search et à vos heures, vous êtes coach pour la jeune génération montante du continent africain.
Les champions de demain.
Voilà, on va rappeler les règles évidemment pour les auditeurs. Si vous êtes un jeune diplômé ou un peu plus expérimenté, mais avec un projet solide dans le domaine des services de l'agroalimentaire. Ça peut être l'accès à l'énergie, ça peut être un projet social, même un projet culturel d'ailleurs.
J'adore les projets culturels, vous savez bien.
Et oui, et que vous avez en tout cas du mal à le concrétiser. Eh bien, Didier à mes côtés dans le studio vous écoute et surtout répond à vos questions concrètes. Alors, le seul impératif, bien sûr, c'est que le projet doit être suffisamment avancé, réfléchi. Si possible, même, vous nous avez envoyé, pourquoi pas, un business plan auparavant. Il ne s'agit pas simplement de tester une idée. Hein. Ça ne vous plaît pas trop.
Hein. Ah, ça nous fatigue en studio.
Il faut être capable donc de nous convaincre que votre projet correspond aux besoins de votre pays, voire même du continent africain, parce que de toute façon on retrouve des problématiques similaires parfois d'un pays à l'autre. Voilà, vous nous appelez tout de suite pour nous parler de vos envies et de la façon dont vous avez envie de faire avancer le continent africain. 33 1 84 22 71 71. Didier Acoueté, vous vous apprêtez à... Vous êtes de passage dans le studio, très brièvement d'ailleurs, de RFI, 7 milliards de voisins. Et vous apprêtez à rejoindre Lomé pour les journées de l'entrepreneuriat des jeunes, c'est ça?
Oui, j'étais censé rejoindre Lomé, mais comme je change de direction, mais en tout cas, le forum démarre demain.
Ah, c'est à cause de nous que vous êtes en retard pour le forum.
Oui, exactement Emmanuel, vous serez puni. Les journées de l'entrepreneuriat développement se lancent demain à Lomé. Et en fait, l'idée, c'est de réunir 300 à 400 jeunes. Pour les sensibiliser au métier du verre et puis surtout à l'entrepreneuriat. Vous savez que la question de l'emploi se pose un peu partout. Et il s'agit aujourd'hui de permettre aux jeunes de créer leur propre activité en étant un petit peu plus encadrés avec l'aide financière publique. Et en l'occurrence, là, c'est un fonds au Togo qui soutient les projets des jeunes, qui organise ces journées, avec à la clé les remises de prix, puisqu'il y a une compétition autour de business plans de jeunes qui ont élaboré des projets assez novateurs, des projets verts liés au développement durable et qui recevront des prix.
Ça ressemble un petit peu à la COP21, tout ça, hein, il me semble.
C'est vrai que ça résonne par rapport à la COP21, ouais. C'est très à la mode. Et c'est vrai qu'en Afrique, on néglige un petit peu les sujets développement durable, écologie.
Mais ce sont des sujets qui intéressent la jeune génération.
Un peu loin. Ça intéresse les jeunes générations, mais ils voient pas toujours concrètement comment ça s'articule au quotidien, mais c'est vrai.
Comment ça peut être générateur d'emploi.
Exact, c'est des gestes très simples. Vous savez, les déchets recyclés, c'est vert. Ce qu'on jette dans la rue, on peut en faire de l'énergie. Enfin bref, il y a beaucoup de choses autour des métiers verts.
Il y a des petits business à monter autour des métiers verts sans investissement trop important.
Effectivement, vous savez, un petit jardin, un petit potager qui permet de rendre les villes plus vertes et donner plus d'oxygène, c'est un projet vert. Sauvegarder des arbres en ville ou des parcs publics, c'est vert. Donc c'est pas forcément des gros investissements ou même des sacs plastiques. Vous savez, éviter de distribuer des sacs plastiques dans les villes parce que c'est des déchets qui mettent énormément de temps à se désintégrer et qui pollue extrêmement les sols, les nappes phréatiques. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'attitudes vertes qui ne demandent pas beaucoup de moyens, mais il faut encore que les jeunes le sachent et qu'après il y ait une volonté publique derrière pour encourager ceux qui prennent des initiatives dans le domaine.
Bon, et vous allez prendre votre part d'encouragement pour ces journées d'entrepreneuriat des jeunes. Ça se déroule du 15 au 18 septembre à Lomé et on pourra vous y retrouver. Pour les voisins qui nous écoutent et qui sont directement à Lomé, il faut venir rencontrer en chair et en os Didier Acoueté. 33 1 84 22 71 71. Allez, ça y est, nous prenons un premier projet. Didier, vous êtes prêt, vos oreilles sont grandes ouvertes.
On attaque.
Et vous êtes prêt à attaquer pour les challenges, bien sûr, challenger un peu nos candidats, nos porteurs de projets, et puis bien sûr distribuer des conseils utiles pour nos porteurs de projets. Nous accueillons Théophile. Bonjour Théophile.
Bonjour madame.
Théophile, vous avez 31 ans, vous êtes à Conakry, en Guinée-Conakry. Alors votre parcours en quelques mots, vous êtes diplômé en administration générale au centre universitaire de l'Abbé, qui se situe d'ailleurs à 50 km de Conakry. Vous avez fait comme beaucoup de jeunes, plusieurs années de stage dans différents services administratifs à Conakry. Vous n'avez pas trouvé de travail, jusque-là l'histoire est assez classique, donc chômeur, donc vous vous êtes tourné vers l'enseignement, vous avez enseigné le français, la philo dans des lycées guinéens pendant 4 ans. Votre rêve, c'est bel et bien de devenir entrepreneur, c'est pour ça que vous participez à l'émission aujourd'hui. Et vous avez démarré il y a près d'un an une petite entreprise de distribution de lubrifiants, hein. Alors pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un lubrifiant, c'est ce qu'on met, c'est une huile de moteur, hein, grosso modo, Didier.
Oui,
hein,
oui,
je ne me trompe pas, c'est ça. C'est très utile, notamment pour de nombreuses machines. Hein,
ça permet de lubrifier les pièces mécaniques.
Et pas seulement les motos. Et vous avez fondé cette usine, vous avez fondé cette petite entreprise il y a près d'un an avec 12 000 euros et un partenaire qui vous a procuré ces 12 000 euros, c'est bien cela ?
Oui.
Ouais. Théophile, vous avez déjà remboursé hein, cette somme empruntée, prêtée via un partenaire. Aujourd'hui, vous distribuez vos lubrifiants dans des usines à Conakry, c'est bien cela ?
C'est bien cela, oui.
Vous pouvez nous en dire un petit peu plus en quelques mots ?
Oui, bien sûr. Comme vous venez de le rappeler, ici exactement, parce que j'ai d'abord commencé par l'enseignement, après bien sûr mon université, et j'ai fondé l'entreprise il y a bien plus de 10 mois maintenant. Nous distribuons de lubrifiants et du carburant à des usines de fabrication en place, à Conakry, même à l'intérieur du pays. Mais pour le moment, nous sommes avec les usines de Conakry. Alors, nous avons pu avoir un contrat avec une première usine à laquelle nous livrons du lubrifiant, bien sûr, et du carburant. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas mesuré l'immensité des demandes qu'on nous donnerait en mettant cette usine en place. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui veulent travailler avec nous, qui veulent contracter avec nous. Mais le problème, c'est qu'ils ont des besoins énormes par rapport à nos capacités de satisfaction. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a plus de 3 usines en stand-by qui veulent travailler avec nous, mais que nous avons mis en stand-by en attente bien sûr, parce que nous ne pouvons pas pour le moment les satisfaire vu nos moyens financiers.
Alors, c'est quand même incroyable votre histoire, parce que vous avez embauché cet employé, vous avez remboursé le capital, la somme de départ que vous aviez emprunté pour démarrer cette entreprise. Aujourd'hui, vous avez trop de contrats, finalement, si je comprends bien, hein, Théophile, que vous ne parvenez pas à honorer, parce que qu'est-ce qui vous manque, en fait, hein ? À l'heure actuelle, vous approvisionnez, je crois, une usine de matelas, vous avez travaillé aussi pour des usines de matériaux de construction. Comment se fait-il que, finalement, vous avez trop de clients ? Et vous ne parvenez pas à approvisionner vos clients en lubrifiant.
Nous ne parvenons pas à approvisionner nos clients, tout simplement parce que nous manquons de moyens financiers matériels pour le faire. Parce que quand on contracte avec un client, il faut que nous installons d'abord chez lui une cuve de manutention du carburant. Et cette cuve-là, il faut l'acheter. Il faut aussi que nous ayons des moyens de transport, hein, des citernes.
Donc clairement, il vous manque une camionnette de transport pour transporter du lubrifiant en tonneau, c'est-à-dire que c'est un équipement évidemment très spécifique, une citerne de transport de carburant, etc.
Oui, il nous manque justement une camionnette, ça c'est pour le transport de lubrifiant, et une citerne pour le transport du carburant. Et que le client, quand il lance la commande, il vous êtes obligé de non seulement respecter la quantité demandée, mais aussi le temps. Parce que ce sont des usines.
Oui, il faut livrer à l'heure, sinon alors, vous pénalisez l'usine, c'est ça.
Il faut livrer à temps et avec la qualité et puis la quantité. Voilà, c'est un problème. Mais pour arriver à faire des choses comme ça, il faut avoir de l'argent, parce que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de nos fournisseurs, hein, il faut acheter du cash. Et avant de livrer. Et parce que quand le carburant, surtout chez nous en Guinée, le carburant, ce n'est pas facile de rentrer dans cette affaire parce que c'est le cas qui marche. Sinon, on avait proposé à nos fournisseurs de nous donner à échéance, puisque nos clients nous payent à échéance. Donc, on a demandé à nos fournisseurs de nous donner le produit à échéance pour leur payer à échéance. Ça n'a pas marché de ce côté. Donc, nous sommes obligés de payer le cash et vendre aux clients. Ce qui fait qu'on a des difficultés d'approvisionner nos clients parce que nous n'avons pas d'argent. Et qui peut nous permettre de couvrir leurs besoins posés à notre niveau. Pour la petite histoire, le premier client nous prend 10 fils par chaque 10 jours, ça fait 36 fils par mois, ça avoisine les 30 millions, les 90 millions de francs guinéens. Mais il nous demande 10 000 litres de carburant par mois, ça fait énorme. Donc, de ce fait, nous avons cette difficulté d'approvisionner.
Théophile, la ligne se dégrade, je suis désolée, mais on va laisser la parole à Didier à côté. Si j'ai bien compris votre problème, votre entreprise a démarré toute petite, plutôt bien, et aujourd'hui vous avez une sorte de plafond de verre au-dessus de vous, car faute d'investissement massif, à la fois pour racheter du carburant en quantité suffisante pour livrer, pour racheter du matériel de livraison, etc., vous ne parvenez pas à grandir, ce qui veut dire que si vous ne grandissez pas, si votre entreprise ne grossit pas, vous allez tomber, quoi, grosso modo. Vous vous sentez le couteau sous la gorge. Didier, à côté, comment vous réagissez par rapport aux échéances qui semblent être finalement assez inquiétantes de Théophile, qui a démarré cette petite entreprise il y a près de 10 mois aujourd'hui.
Oui, bonjour Théophile. Bon, d'abord, bravo pour le succès, les premiers succès de l'entreprise. J'ai d'abord deux questions. Est-ce que vous avez des contrats exclusifs avec vos clients? Et vos clients ont-ils une fiabilité financière? Est-ce que c'est des entreprises assez bien installées qui n'ont pas de problème de trésorerie?
C'est une question très pertinente. Le premier que j'ai dit qu'on a pour le moment un client effectif à partir du moment qu'on a un contrat exclusif avec lui. Et les autres clients avec qui nous sommes en train de contracter maintenant, nous ne sommes pas en mesure de faire un contrat exclusif avec celui-là, parce que dès que le contrat exclusif est là, nous sommes tenus de respecter tous nos engagements. Donc, et que comme nous savons que nous ne pouvons pas respecter les engagements de leur côté pour un problème financier, donc nous les mettons en attente. Mais avec le client avec lequel nous sommes maintenant, nous avons un client exclusif avec lui. Mais le problème que vous venez de toucher est très pertinent, le problème de la capacité financière de notre client. C'est un client auquel nous livrons, nous avons que la difficulté à nous faire rembourser, et il nous donne en argent, en monnaie d'exchange, parfois il donne 10%, il donne 50% et 50%, enfin, ça devient très difficile, il n'y a pas plus qu'avant-hier
Effectivement Théophile, si vous voulez, en fait c'est un peu le serpent qui va se mordre la queue, parce que là où je voulais en venir, si vous avez des clients qui sont fiables et financièrement stables, vous n'aurez pas trop de soucis pour trouver une banque qui va vous octroyer le financement, la ligne de découvert ou la trésorerie qu'il faut pour soutenir l'activité. Mais la condition, c'est que la banque va se substituer à vous, en réalité, pour que les paiements du client se fassent directement auprès de la banque. Donc, vous domicilieriez, finalement, le contrat de la société auprès de la banque pour que ce soit la banque qui reçoive les paiements, mais la première des conditions, c'est que la société soit fiable et paie dans les temps. Donc la banque va faire ce qu'on appelle une due diligence sur la société pour s'assurer qu'elle peut honorer ses engagements. Parce que le risque que vous courez, et en réalité c'est vraiment un risque qui est inhérent à beaucoup d'entreprises, si vos clients n'arrivent pas à soutenir les commandes au niveau financier, vous payez dans les temps, en réalité, votre entreprise va disparaître. Et c'est le risque que vous commencez à courir. C'est-à-dire que vous allez jouer la banque pour vos clients. Or, ce n'est pas soutenable pour une entreprise qui a des niveaux de découvert bancaire entre 10, 15, 20% de jouer le crédit pour le client. Donc, il faut absolument que le portefeuille client, à mon avis, soit sain. Et s'il est sain, les banques devraient suivre, parce que ce sont les banques ou vos banques qui recevront les paiements des clients. Deuxièmement, l'intensité concurrentielle. Bon, c'est un point qu'on n'a pas pu évoquer, mais je comprends qu'il y a peu de petits acteurs sur ce segment de marché. Vous avez les gros distributeurs de carburant, d'huile, qui doivent livrer les plus gros clients et qui doivent vous percevoir peut-être comme un petit concurrent. Un petit concurrent parce que vous venez de démarrer. Sinon, l'autre idée, ça aurait été d'aller voir un des gros acteurs avec lesquels vous signez un contrat, entre guillemets, de partenariat, et vous devenez,
prestataire de second rang, finalement.
C'est ça. C'est-à-dire, il vous donne toute la surface qu'il faut en termes de lubrifiant, puisque eux, ils n'ont pas de problème de stock, a priori. En contrepartie de ce partenariat où vous ramenez des clients, et ben vous avez une commission sur la transaction et vous faites également le suivi client. Disons que c'est une solution intermédiaire qui peut peut-être permettre pendant 12 mois de dégager un peu de cash dans le deal, c'est vous qui gardez le client. C'est-à-dire dans le partenaire avec les gros acteurs, le client c'est le vôtre, il reste à vous pendant 2, 3, 4, 5 ans.
Il faut un contrat bien ficelé.
Bien sûr, mais ça se fait. Mais à condition que les clients soient des clients sûrs, sinon ça n'intéressera pas le partenaire. Donc en gros, si vous voulez, les deux idées auxquelles je pense, hein. Un, c'est le nettoyage du portefeuille client pour que la banque puisse vous suivre et vous domicilier donc forcément les revenus auprès de la banque. Deuxièmement, un gros partenaire industriel qui est dans le secteur. Donc, les grandes sociétés pétrolières, hein, évidemment, ce sont elles, qui acceptent de signer un contrat avec vous. Vous devenez un porteur d'affaires. C'est vous qui gardez le client. Vous avez une commission sur tous les transactions qui sont faites. Ça vous permet pendant 12 à 24 mois de générer un peu de ressources pour acheter une citerne, une camionnette, et avoir un peu de ressources pour relancer votre activité. Sinon, votre activité risque de mourir assez rapidement. Parce que les clients feront défaut et je vois déjà que vous souffrez en trésorerie. Quand vous dites,
alors que le projet avait bien démarré, alors qu'il y a un portefeuille client, des clients qui sont prêts à signer des contrats, etc.
Vous pouvez avoir beaucoup de clients, Emmanuel, et en même temps mourir de ces clients parce que ce sont les clients qui vous tuent. C'est-à-dire que vous évertuez.
C'est quand même un comble.
Oui, mais c'est la réalité du business. Ce qu'on appelle les mauvais clients. C'est pas forcément qu'ils sont de mauvaise foi, mais parce que leur activité ne permet pas de vous payer dans les temps, ils vous paient en monnaie de singe, comme il le dit. Et en fait, vous jouez la banque pour le client et vous mourrez à leur place.
Théophile, ne vous laissez pas tuer par vos clients, hein, on est bien d'accord. Bonne journée à Conakry. Bonne chance, vous nous tenez au courant, bien sûr, hein, pour votre projet. Très intéressant. Et on peut dire que Théophile, quand même, a de l'avenir, hein, sur ce secteur.
Non, mais bien sûr. D'autant plus qu'avec toute l'industrialisation des
vous
économies.
Y croyez ?
Oui, ce sont des produits dont les usines ont besoin pour fonctionner.
Allez, bonne chance, Théophile. Vous continuez de nous appeler, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Didier à côté qui n'a pas perdu l'habitude de regarder la pendule chez 7 milliards de voisins. On se fait pas tuer par les banques, chez nous on se fait tuer par la pendule.
Par la montre.
Nous accueillons un autre porteur de projet, Franck, 36 ans, Libreville au Gabon. Bonjour Franck.
Bonjour Emilienne.
Oui, Emmanuel. Franck,
Emmanuel.
On a juste...
Moi, c'est Alain.
On est bien avec Didier à côté, le coach. Franck, on vous appelle, on a juste le temps de se dire bonjour parce qu'on va bientôt rendre l'antenne pour le flash, mais on va mettre l'eau à la bouche, ou plutôt on va susciter l'intérêt de nos auditeurs et des autres jeunes qui nous écoutent, et de Didier, bien évidemment, qui va vous conseiller dans quelques minutes. Franck, vous êtes à Libreville et vous souhaitez créer une entreprise de transport de grumes. Pour ceux qui ne savent, vous savez ce que ce sont des grumes, hein, Didier.
Évidemment,
les troncs d'arbres abattus.
J'en vends tous les jours.
Voilà, dans un pays évidemment, la forêt gabonaise, très célèbre, forêt de centrale. Et donc, bien évidemment, vous allez nous en parler dans quelques instants de ce projet de transport de grumes au Gabon. Pourquoi faire ? Vous surfez sur quel marché à l'heure actuelle au Gabon ? On s'en reparle dans quelques instants. Je rends l'antenne pour le flash et bien évidemment, les voisins et les voisines, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71 pour nous parler de vos projets pour le continent africain et les conseils de Didier.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, l'émission pour les jeunes entrepreneurs sur le continent africain.
Et les moins jeunes.
Aujourd'hui, bien sûr, les plus expérimentés également. Parfois, on a de parole, mais c'est vrai qu'on met quand même l'accent sur les jeunes générations. Avec votre écoute et vos conseils, Didier Akouété, vous venez régulièrement, tous les mois, dans le studio des 7 milliards de voisins. Et quant à vous qui nous écoutez, si vous avez un projet pour le continent ou pour votre pays en Afrique subsaharienne, un projet auquel vous croyez, qui est déjà mûrement réfléchi, vous avez déjà fait des études de marché, vous avez une partie de vos partenaires, etc., voire même le projet a démarré, eh bien appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 pour nous parler de vos difficultés à avancer dans votre business, et même s'il s'agit d'ailleurs d'un projet à but non lucratif, on est à l'écoute de tous les types de projets. Nous reprenons à l'antenne Théophile, 31 ans, Franck, 36 ans, Libreville au Gabon.
Manuel, concentrez-vous,
Franck. Vous êtes toujours en ligne avec nous ? Oui, Franck. Alors,
donc, oui, je suis en ligne.
Votre parcours brièvement, vous avez été formé avec un BTS froid et climatisation, ça c'est des métiers d'avenir, au Cameroun. En rentrant au Gabon, pas de boulot. Et puis ensuite, 15 ans d'expérience dans le domaine du transport, certification pour les marques Mercedes, Renault, en service après-vente, réparation, donc vrai mécanicien, Franck. Formation professionnelle aussi en logistique au Gabon. Et votre projet, c'est de créer une entreprise de transport de grumes, c'est-à-dire c'est le transport des troncs d'arbres qui ont été abattus, essimer et de les transporter jusqu'à... Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la loi de 2010 interdit d'exporter des grumes de broie brute pour favoriser la transformation dans le pays même, donc au Gabon. La transformation locale, c'est pour surfer finalement sur cette loi de 2010. Franck, vous souhaitez monter votre projet de transport de grumes ?
Oui, c'est justement en parcours à la loi de 2009-2010.
Je suis rentré dans des recherches avec mes amis et personnellement. Et on a
restez bien devant l'appareil, Franck. Restez bien devant le téléphone.
Oui. Donc, je disais, on a constaté qu'il y a beaucoup de sociétés qui faisaient dans le transport de grumes qui, après la mesure, ont dû changer d'activité parce que à l'époque, beaucoup revendaient le bois à l'extérieur en état brut, mais maintenant il fallait le transformer, et en voulant le transformer, beaucoup de forestiers ont repris des mesures en créant des scieries, soit dans des sites en province, soit à Libreville.
Donc c'est une loi qui a finalement fait un peu le ménage chez les transporteurs de grumes.
Oui, qui fait beaucoup de ménage chez les transporteurs de grumes.
Alors pourquoi vous voulez vous lancer vous-même alors, Franck?
Juste, nous, ce qui nous a intéressés dans ce domaine, c'est parce que on a été contacté par certaines sociétés qui doivent transporter du bois sur place, mais n'ont pas de camion, n'ont pas de grumier pour pouvoir aller chercher le bois en forêt et ramener ça sur place.
Dans des ateliers de transformation de bois, c'est ça?
Dans les ateliers de transformation de bois. Donc nous, on va assurer ce relais de prendre le bois en forêt, le ramener dans des scieries, dans les usines de transformation. Une fois que cela est transformé, le reprendre du lieu transformé pour amener au port s'il faut
pour l'exportation. D'accord.
Pour l'exportation. Donc c'est ce relais que nous souhaitons assumer.
Ouais. Vos questions à Didier Akouété?
Comme je vous disais, je vous ai fait parvenir mon business plan. Dans mon business plan,
il est en train de le feuilleter, Didier.
Donc j'ai fait un business plan. Dans ce business plan, j'ai été un peu heurté lorsque je suis allé auprès des banques. Parce qu'au départ, les banques m'ont demandé de réaliser un business plan. J'ai réalisé le business plan, je suis allé. Mais après, ils m'ont demandé d'apporter un capital. C'est là où je suis bloqué parce que si vous remarquez bien, c'est quand même un demi-milliard de francs CFA. J'ai pas le demi-milliard de francs CFA. J'ai des clients, mais les clients, quel que soit le client lui, il veut que j'apporte les camions. Une fois qu'ils ont vu les camions, ils me donnent, j'ai le marché. Donc, les clients m'ont dit, apporte-nous les camions. Une fois que tu as les camions, tu as le marché impérativement. Si tu apportes ton camion à 10h, à 10h01, tu commences ton travail. Mais c'est l'apport financier. Donc moi je voulais voir avec Didier, étant donné que c'est une entreprise avec des parts capital ouvert, comment faire pour trouver des investisseurs qui sont intéressés pour faire cette affaire avec moi? Et la seule garantie que j'ai, c'est l'activité elle-même. Je n'ai pas de garantie. J'ai voulu mettre à un moment le terrain familial en caution auprès des banques. Mais après, je ne suis pas le seul enfant de ma famille. Je ne veux pas me... il faut avoir l'autorisation de tout le monde. Donc même moi, je cherche maintenant des partenaires qui peuvent m'aider à réaliser mon rêve.
Et pour l'heure, votre seul capital, c'est votre connaissance, votre expérience et votre connaissance des clients potentiels qui sont d'accord pour travailler avec vous, c'est ça. Bon, c'est alors c'est du virtuel pour vous, Didier ?
Non, mais c'est pas du virtuel. Hein. C'est comme le taxi qui va chercher un client, mais il y a pas de voiture. Donc le client dit bah je monte pas parce qu'il y a pas de voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc notre ami Franck est confronté à ce problème. Alors première chose, comme le disent d'ailleurs nos amis banquiers qu'on a invités en studio, si vous mettez pas un peu d'argent sur la table, les banques ne suivront pas parce que ça veut dire que vous ne prenez pas le risque. C'est pas que vous ne voulez pas, mais c'est vrai que c'est une réalité. Alors la question que je me posais, vous savez ces sociétés qui utilisent ce bois et le transforment et donc qui doivent le transporter d'un point à un autre, est-ce que vous avez essayé de constituer, de donner par exemple un petit tour de table, hein, c'est-à-dire vous dites par exemple je suis prêt à céder 30% à un groupe d'investisseurs, ils peuvent être 1, 2, 3 ou 4 qui sont dans ce domaine et qui ont besoin de cette prestation. Admettons, la société...
Oui, Franck.
Oui, allez-y.
J'ai étudié cette formule-là.
Oui, d'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'elles seront réceptives? Parce qu'en fait, celui qui a le bois, qui a besoin de le transporter, s'il ne le transporte pas, évidemment, il n'a pas de business. Or, il a besoin de cela. Oui. Vous arrivez avec une expertise. Sauf qu'il vous manque le matériel et donc le capital. Donc, est-ce qu'un petit consortium de deux, trois sociétés qui vous paraissent avoir un peu de volume de transport pourraient accepter de s'associer au projet, de mettre un peu de billes, parce que ça va rassurer aussi les banques, ça constituera un petit peu la mise de départ pour lever le reste des ressources auprès des financiers sur le marché.
Est-ce que c'est une piste que vous avez creusée, Franck?
Comme je vous disais tout à l'heure, sur cette piste, j'ai pas creusé. Moi, j'ai plus creusé, je suis allé vers les banques. Et en discutant
avec mais en solo, banques, vous êtes allé voir les banques tout seul.
Tout seul, ouais.
Oui. Non,
je suis allé voir les banques tout seul.
Les banques s'engageront difficilement dans ces conditions. Utilisez vos futurs clients comme partenaires pour structurer financièrement le projet. Alors même si cette société, entre guillemets, ne veut pas donner du cash dans le tour de table, ce qui arrive, mais au moins qu'elles disent par exemple, nous rentrons dans le tour de table, nous pouvons venir de temps à autre en soutien financier ou garantir une partie du financement de la banque parce qu'ils viennent en actionnariat. C'est une possibilité. Ou alors, si ces entreprises ont des actifs, si elles n'ont pas de cash, regardez si elles peuvent mettre une partie de leur actif, comme on dit, en collatéral. C'est-à-dire, ils apportent ça en garantie du financement. Exemple, une des entreprises qui a une petite unité de pré-transformation qui vaut, je sais pas, 100 millions de francs CFA, elle peut dire à la banque, j'apporte une partie de ce matériel en garantie, en contrepartie du financement que vous donnerez à la société. Et nous sommes aussi actionnaires nous sommes dans le tour de table.
Si les clients sont vraiment intéressés, sont dans le besoin d'avoir une expertise comme celle de Franck, elles prendront quelques petits risques.
Elles pourraient prendre le risque parce qu'elles ont besoin de Franck pour transporter plus rapidement leurs marchandises et pouvoir aussi vivre de leur activité.
Franck, vous avez pris des notes, j'espère. Hein? Vous allez vous faire conseiller pour avoir un montage financier un petit peu plus précis, et puis vous allez retourner voir les banques avec ce consortium dont vous parlez, Didier Acouetté.
D'accord, vous pouvez le faire.
Je suis désolée, Franck, la ligne se dégrade. De toute façon, on va vous suivre. Franck, surtout, vous nous tenez au courant. On vous rappelle dans quelques mois. Vous continuez de nous appeler, les voisins et les voisines. Vous avez la parole pour nous parler de vos projets qui vous tiennent à cœur. Mais c'est plus que le cœur, hein, d'ailleurs. C'est aussi le portefeuille. 33 1 84 22 71 71. Oui, Didier.
Non, je voulais juste ajouter qu'à Libreville, il y a un certain nombre d'incubateurs dont nous avons parlé d'ailleurs dernièrement, qui peuvent aussi accompagner et aider à mobiliser une partie du capital via les fonds de soutien au projet des jeunes au Gabon. Et je crois qu'il y a un ou deux fonds.
C'est bien noté, on va remettre ça sur la page des 7 milliards de voisins. N'hésitez pas à aller sur notre site RFI.fr. 33 1 84 22 71 71. Nous laissons la parole maintenant. Alors un autre voisin de Libreville, ils sont très dynamiques en ce moment. Abdon Nikaise. Ça bouge à Libreville. Bonjour Abdon Nikaise.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Abdon Nikaise, alors vous venez d'un brevet d'études techniques industrielles, génie civil, vous avez été agent aéroportuaire, vous avez ensuite vous avez fait un BTS à distance de gestion hôtelière, je le souligne parce que c'est important pour le projet que vous souhaitez monter, via le CNED en France. Vous avez aussi une formation en développement durable. Enfin bref, votre projet à l'heure actuelle et toutes vos forces sont concentrées sur ce projet aujourd'hui, c'est de créer une agence de voyage en ligne au Gabon. Alors moi, je dois dire qu'au départ, j'étais un peu interpellée parce que le Gabon, c'est pas le Kenya. Hein. Enfin, le Kenya, je sais pas si en ce moment c'est le bon modèle, mais bon, en tout cas, c'est pas la Tanzanie ou l'Afrique du Sud. Question destination touristique. Pourquoi cette idée ?
Ben, Bastrid, d'abord, j'ai oublié de dire bonjour au coach. Bonjour, coach.
Bonjour, Abdon Nikaise.
Okay, je suis très ravi déjà de vous avoir en ligne parce que des conseils très avisés, c'est important. Voilà, l'idée comme ça par, comment dire ça, dans mon domaine d'activité, j'ai été emmené à voyager un peu partout dans le pays et je logeais très souvent dans les hôtels. Et c'est comme ça que j'ai constaté, malheureusement, pendant nos discussions avec certains gérants, qu'ils avaient besoin de visibilité commerciale. Et ça s'est vérifié lorsque j'ai expérimenté l'idée dans le cadre associatif avec l'association Afriquita, en collaboration avec Bella Colisol de Paris. Alors, j'ai constaté également que la plupart des prestataires à qui on s'adressait pour pouvoir monter les produits, parce que bon, on fonctionnait un peu dans le principe de tour opérateur, donc l'assemblage de plusieurs produits sous forme de forfait que l'on proposait à des clients. Bon, mais ça, c'était plutôt dans le cadre associatif.
En quelques mots, dites-nous rapidement, Abdon Nikaise, comment va fonctionner ce site d'agence en ligne ?
Bon, voilà. Le site, il sera, on va dire, c'est un site dynamique, avec une interface active 24/7. Il y aura des annonceurs, donc les prestataires touristiques, qui vont pouvoir annoncer leur disponibilité sur le site, et moyennant un abonnement semestriel ou annuel. Et de l'autre côté, les touristonautes, les internautes qui ont besoin d'informations précises sur une destination, notamment par exemple la destination Gabon, ils trouveront une information complète. Et c'est comme ça que quand le touriste, par exemple, il sera intéressé par un produit qui sera sur la place de marché, lorsqu'il va demander par exemple une réservation, nous la plateforme, parce que c'est une plateforme de réservation, en même temps une place de marché. Donc la plateforme va s'occuper de la réservation du client qui passera directement sur l'outil de réservation du prestataire touristique qui mettra en place ses disponibilités.
Et en même temps, vous allez vous-même proposer vos propres prestations pour compléter l'aspect commercial. C'est bien cela, c'est-à-dire que vous allez proposer des prestations d'accueil, de suivi de demande de visa, d'accueil des touristes à l'aéroport, des choses comme ça.
Et effectivement, Emmanuel, c'est là le fort même du projet, parce que nous, nous venons en appui ou bien en fait en complément, plutôt que de déranger notre prestataire, nous tout ce que nous ferons, c'est accueillir, par exemple, le touriste qui va arriver, on va l'accueillir, on va le transporter, on va lui faciliter aussi la
Alors quelle est votre difficulté à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous attendez comme conseil de Didier?
Bon, ce que je vais d'abord chercher à savoir, je vais poser la question au coach, comme ça, qu'est-ce que pense Didier du projet, et éventuellement comment faire pour intéresser un financier pour nous accompagner dans ce projet.
Alors effectivement, c'est un projet intéressant, puisque l'industrie du tourisme est appelée à se développer fortement sur le continent africain. En fait, je cherchais quelques données que j'ai vues récemment d'ailleurs sur le nombre de touristes qui sont arrivés sur le territoire, sur les territoires en Afrique l'année dernière. Il y a une légère baisse, il paraît, depuis le début de l'année, plusieurs raisons, mais le volume devrait augmenter. Et c'est vrai, la contrainte majeure lorsqu'on voyage dans certains pays en Afrique, c'est d'avoir des packages en ligne, des informations suffisantes en ligne qu'on peut acheter et choisir son itinéraire. Donc déjà, en ça, la réponse que Abdonikès propose est une bonne réponse. Premier temps. Donc ça veut dire qu'il y a un marché potentiel. Alors maintenant, comment structurer ça? Je crois que votre approche déjà est bonne. C'est-à-dire, vous vous associez avec des professionnels du secteur qui mettront
hôteliers,
en ligne
restaurateurs, etc.
Leurs offres, les offres que vous construisez, etc. Avec une plateforme de paiement en ligne. Mais j'irai un peu plus loin. Si vous voulez, tout le monde peut faire ça, a priori. Et à chaque fois qu'on raisonne en projet, quelles sont les barrières qu'il faut essayer de mettre pour se protéger un peu? Parce que faire une plateforme en ligne, trouver des partenaires, etc. Je dirais, comment pouvez-vous aller un peu plus loin pour que votre offre soit tellement exclusive, soit tellement intégrée, qu'elle soit difficile à copier? Parce que c'est toujours un peu ma crainte sur des projets qui sont copiables assez facilement, parce que l'idée est extrêmement séduisante. Après, vous allez l'étendre à d'autres pays, que le Gabon, peut-être l'Afrique centrale. Mais je demanderais à ce que vous alliez un petit peu plus loin encore que cette première idée qui consiste à offrir une plateforme de voyage.
Ça pourrait être quoi, par exemple, des accords très spécifiques avec des parcs nationaux pour organiser. On sait que le Gabon, bon, c'est une formidable réserve animalière avec des côtes interminables. Donc monter des séjours clés en main, très bien organisés, découverte de l'environnement
Des
du Gabon.
Des séjours très thématiques, par exemple. On en avait parlé ici.
Où il y a une forte
jour.
Valeur ajoutée d'expertise locale. C'est
exactement.
Ça.
Vous savez, le Rwanda, par exemple, a un séjour très thématique qui fonctionne très bien. Bah, c'est la visite des gorilles. Vous payez, je crois, 300 ou 500 dollars pour voir des gorilles qui disent ils sont uniques. Ils disent que c'est unique, quoi. Donc, disons, j'essaie de. Il faut que vous trouviez l'unicité de l'offre pour que par-delà l'offre.
Donc, vendre du concept et pas seulement du service de base.
Exactement. Vendre du concept et plus
vous
je crois.
Vous y croyez
aussi
à ce projet ou pas? Parce
non,
que
j'y crois. Non,
il paraît qu'Abdonikès, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure au téléphone. Plein de gens lui disent oh, ben non, mais tu rêves.
Mais vous savez, en Afrique.
Parce que le Gabon, c'est vrai, c'est pas encore une plaque tournante du tourisme.
Oui, mais
hein, il faut le dire.
Parce que c'est mal vendu. Au Gabon, il y a des sites formidables à visiter, mais c'est super mal vendu. Pourquoi un petit pays comme le Rwanda arrive à se vendre si bien? Parce qu'ils ont compris le truc. Donc, Abdonikès, ceux qui vous disent que vous avez tort, c'est eux qui ont tort. C'est un beau projet parce qu'il y a un potentiel. Et en plus, le gouvernement devrait vous soutenir. Le
avec,
ministère
alors
du tourisme,
avec cette idée d'offre thématique, etc.
Vous donner même de l'argent pour le faire. Parce que ça fait partie, effectivement. Le Gabon du tourisme fait partie des piliers du Gabon émergent. Donc vous êtes en plein dans le Gabon émergent et on devrait vous donner de l'argent pour ça. Mais simplement, ne faites pas.
Vous avez contacté toutes les autorités. Hein, ceci dit, pour l'instant, rien. Aucun financement vu, si je me trompe pas, donc vous êtes très avancé dans votre travail et dans votre dossier. Peut-être un dernier conseil pour trouver un partenaire financier, parce que Abdon pour l'instant sillonne les salons du tourisme, etc. Pour l'instant, ça décolle pas.
À mon avis, l'État devrait être votre meilleur partenaire, parce que ce que vous faites pour le Gabon, ça fait partie des piliers, comme je vous dis, du Gabon émergent. Et à mon avis, en nous écoutant, peut-être aujourd'hui, les autorités vous contacteront pour...
Voilà, et le tourisme, c'est que 2,8% du PIB national au Gabon.
C'est marginal,
ça pourrait
alors
faire
que
plus.
Ça peut faire 10-15%.
Bon, ben, le message est passé. Bonne chance, Abdon Nikaise. Merci pour vos conseils, Didier. Bien évidemment, vous nous tenez au courant. Vous savez que on aime beaucoup avoir de vos nouvelles dans cette émission. Alors, je redonne le numéro de téléphone pour ceux qui veulent bien évidemment nous contacter pour la prochaine visite du coach. C'est le 33 1 84 22 71 71. Et dans quelques instants, nous avons des nouvelles d'une porteuse de projet, une voisine qui, en plus, est dans le studio à Paris de 7 milliards de voisins.
Quelle chance.
16 milliards de voisins, tous les mois, avec le coach DJ à côté.
Didier à côté, à l'écoute des projets des jeunes générations sur le continent africain. Que sont-ils devenus? Eh bien voilà, en face de vous, Didier à côté, vous avez Sinatou. Bonjour Sinatou.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 24 ans Sinatou, vous êtes originaire de... Enfin vous êtes béninoise, hein, vous avez grandi à Cotonou, Porto Novo, c'est ça. Et vous êtes passé dans notre émission au téléphone il y a 10 mois maintenant. Vous aviez un projet qui s'appelait Les Plumes Vaudou, c'était un projet de promotion d'auteurs béninois. Et si vous êtes dans ce studio aujourd'hui, c'est très simple, c'est parce que en fait vous étiez une blogueuse hein, sur Mondo Blog, la plateforme de RFI, et maintenant vous êtes en formation en journalisme au CFPJ et vous êtes en contrat pro à RFI. Tout ça est un pur hasard. Bref, on vous a retrouvé dans les couloirs de RFI et on s'est souvenu bien évidemment que vous nous aviez soumis votre projet. Vous vous souvenez de ce projet culturel
absolument.
À but non lucratif. Hein.
Oui, voilà. Que j'avais bien aimé d'ailleurs. Ouais. Et j'avais demandé à Sinatou de l'étendre à d'autres domaines artistique.
C'est ça, vous aviez dit pourquoi promouvoir uniquement des écrivains et pourquoi le faire uniquement au Bénin. Forcément, vous êtes togolais. Bon.
On avait vu venir.
Alors, où est-ce que vous en êtes? Qu'avez-vous, comment avez-vous avancé sur ce projet en 10 mois, Sinatou?
Alors, donc, du coup, on n'a pas élargi. On est toujours resté sur le Bénin parce que déjà, je tiens à préciser que je suis pas toute seule sur le projet. Donc, il y a Jasmin, que je remercie d'ailleurs en passant. Donc, Jasmin Arosingezo qui m'accompagne sur le projet. On a décidé, donc, de rester sur le Bénin parce que forcément, on a tous nos contacts au Bénin et on n'avait pas vraiment envie de prendre de gros risques au cas où ça marcherait pas. Et donc du coup, on manque toujours de manuscrits parce qu'on aimerait avoir des manuscrits donc très très sérieux. On n'aimerait pas juste faire une plateforme littéraire. Mais depuis notre dernier passage donc dans l'émission, il y a eu les trophées donc les plumes vaudou,
ouais,
qui ont été
un trophée qui récompense des textes. Hein.
Exactement, ouais. Qui récompense les auteurs et acteurs du livre au Bénin.
Ouais.
Donc la première édition a eu lieu en 2013 et la deuxième édition aura lieu donc en cette année. Sauf qu'elle aura un autre nom, donc du nom de Jean Plia, qui est décédé récemment et un grand, grand auteur béninois, à qui on voulait rendre hommage. Et donc depuis, on sait aussi très bien à quoi veut ressembler notre site. Donc on sait déjà qu'on veut qu'il ressemble à racontezlavie.fr, qui est un site qu'on apprécie beaucoup. Et depuis le temps,
tous les gens postent des textes très autobiographiques, hein, où les gens racontent leur vie.
Ouais. C'est ça. Parce qu'on aimerait vraiment, avoir des histoires réelles, des histoires vraies et personnelles. Voilà.
Ouais.
Et donc, depuis, on a postulé à une bourse de la Fondation de France, les bourses Déclic Jeunes, qui a eu,
Bon, vous n'avez pas eu de prix.
Non, on n'a pas eu de prix, mais le projet a intéressé, beaucoup intéressé.
Oui.
Donc le comité, on a passé les deux premières étapes. On n'a pas eu le prix, mais c'est pas grave. Donc après, on a obtenu grâce à cette bourse là un rendez-vous avec l'OIF qu'on va rencontrer prochainement, justement parce que la dernière fois, donc Didier nous avait conseillé de nous rapprocher des institutions culturelles
de la francophonie.
Voilà, des institutions de la francophonie.
Il se bouge hein là depuis. Dis-moi, Didier. Hein.
Donc, il y a des choses qui ont été
faites. Enfin.
Voilà. Ouais.
Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et on espère que notre passage ici encore va motiver d'autres personnes donc à proposer des projets, à nous rejoindre pour créer notre
alors,
site.
Alors, c'est un projet à but non lucratif. Néanmoins, il vous faut un peu d'argent pour monter ce site.
C'est ça, oui. Ah. Il nous faut environ 2000 euros pour lancer le site, parce qu'on aimerait avoir un site qui tient la route.
Et après, il y aura une équipe de bénévoles qui va recevoir les textes, relire,
rendre ces textes attractifs et les mettre à disposition.
Voilà. Vous avez essayé le crowdfunding?
Non, on y pense beaucoup, mais le problème, c'est pas vraiment un problème. On essaye d'abord donc de rassembler une communauté autour du projet pour être sûr que le crowdfunding, la campagne va être bouclée.
Ouais.
Donc, à partir du moment où ce sera fait, où on aura une vraie communauté qui va nous soutenir, on va penser à justement le financement participatif qui pourrait être une option.
Très bien. Vous y croyez en tout cas à ce projet?
À fond.
Ça fait combien de temps maintenant que vous travaillez à plusieurs sur ce projet pour promouvoir vraiment les auteurs béninois?
Donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. On y croit, on travaille un peu, on baisse les bras, on revient, on y travaille encore. Donc on espère que, enfin, en tout cas, on est sûr que ça va bientôt être chose faite.
Didier.
Ben c'est bien. Non, mais. C'est un petit peu les projets culturels. On en parlait dans l'émission. Ça prend du temps. Les gens n'y croient pas beaucoup, en Afrique notamment. Mais c'est une ouverture sur le monde. C'est pour ça que je parlais de crowdfunding. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la littérature africaine, qui aimeraient bien découvrir des nouveaux auteurs. Et donc, cette plateforme répond à un vrai besoin. Et en fait, quand je disais l'année dernière qu'il faut l'étendre, c'est parce que la monodiscipline... Vous pouvez rester sur le Bénin, mais la monodiscipline vous cantonne simplement dans un segment du marché. C'est-à-dire il y a que ceux qui aiment lire et ceux qui s'intéressent à la littérature et ceux qui s'intéressent à la littérature béninoise
et ceux qui et en plus il y a des textes autobiographiques.
Ouais, donc vous réduisez tellement votre segment que vous retrouvez avec un réduit d'individus alors que c'est un projet intéressant. Or si vous proposez également des plasticiens, bref, vous élargissez un petit peu plus le segment. Tout en gardant votre idée originelle qui est de dire nous voulons.
Donc pourquoi pas un appel à projet pour montrer des œuvres de plasticiens,
oui,
par exemple, de peintres.
Exactement. C'est-à-dire ça devient une vraie vitrine du Bénin, quoi, de l'art en général, la culture béninoise. D'autant plus que dès qu'on parle vaudou, tout le monde pense Bénin, ouais, puisque votre
produit est les plumes vaudou. À retenir en tout cas les plumes vaudou. Hein, ça avance lentement mais sûrement. Merci Sinatou d'être passé. Nous voir. Un mot de conclusion, Didier. On a vu des projets très différents. Entreprises de distribution de carburant, entreprises de transport, agences de voyage en ligne. Qu'est-ce que ça vous évoque? Il nous reste quelques secondes.
Non, mais très rapidement, le client, c'est un élément clé. Il faut un client pour faire vivre les projets. Mais si c'est pas des bons clients, vous mourrez de ça. Deuxième, innovation. Le Gabon, innovation, les ballons montgolfières, c'est une belle idée.
Au mois prochain, on se retrouve.